France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. C'est la devise de cette émission, vous le savez. Et chaque semaine est consacrée à un département différent. Cette semaine, c'est le Jura qui prend la lumière dans les carnets de campagne et dans le jeu des 1000 euros pour trouver Nicolas Stoufflet aux Rousses dans un quart d'heure. Les Rousses, station de sport d'hiver jurassienne. Au programme des carnets du jour, de l'aventure pour soigner la confiance en soi. Une association organise des périples à vélo, notamment pour des gens qui n'auraient jamais imaginé pouvoir le faire. Mais d'abord, nous parlons du textile jurassien qui a besoin de soutien. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Les carnets de campagne relaient un appel aujourd'hui. L'atelier textile jurassien, entreprise de Lons-le-Saunier qui fabrique des vêtements professionnels, a besoin de plus de commandes pour survivre. Bonjour Mathieu Grosset.
Bonjour.
Vous êtes le président de cette société coopérative qui vend des blouses, des polos, des vestes notamment, des vêtements qui sont fabriqués en France et vous traversez une période difficile. Quel est l'état des lieux aujourd'hui ?
Alors, tout simplement, on est dans une difficulté qui est essentiellement due à un manque de commandes. Le Made in France souffre, il souffre chez nous, il souffre un petit peu partout. Et effectivement, aujourd'hui, notre enjeu, c'est de provoquer un grand nombre de commandes pour pouvoir donner du travail à nos couturiers et couturières et permettre la survie de notre atelier textile.
Combien de personnes travaillent chez vous ?
On a une quinzaine de personnes qui travaillent, dont 12 personnes qui sont en couture.
Alors, de combien de commandes avez-vous besoin pour respirer, disons ?
Alors, on signale dans l'appel qu'on a besoin de 10 000 commandes. Ce qu'on a besoin surtout, c'est surtout d'avoir des entreprises qui nous font, ou des collectivités, des administrations, qui nous feraient confiance de manière récurrente et régulière sur leurs achats de vêtements pour professionnels, pour équiper leurs équipes, leurs agents, dans différents métiers, dans le secteur industriel, dans la restauration, dans le médico-social. On est en capacité de fabriquer des vêtements professionnels dans tous ces secteurs.
L'enjeu du Made in France, bien sûr, c'est le prix. Hein. Vos prix sont-ils beaucoup plus élevés que la concurrence fabriquée en Asie, notamment ?
Alors, ça dépend comment on compte. Alors, évidemment, on est plus cher que... En coût de production que des productions asiatiques qui ne respectent pas les droits des travailleurs ni les droits de l'environnement. Par contre, on fabrique des produits qui sont de grande qualité et qui, du coup, sur la durée de vie du produit, reviennent souvent moins cher, y compris par rapport à des produits qui sont fabriqués en Asie. Ce que nous renvoient nos clients aujourd'hui, c'est que au bout d'un an et demi à peu près, l'investissement initial est remboursé parce que, justement, ils n'ont pas besoin de renouveler leur collection, ils n'ont pas besoin de renouveler leurs achats, parce que leurs produits durent toujours.
Pour une entreprise, acheter ses vêtements professionnels à votre atelier, c'est bien sûr réduire son impact carbone et aussi contribuer à la relocalisation d'une filière, la filière textile en France. Est-ce que vous avez l'impression que la prise de conscience n'a pas encore eu lieu sur ce sujet ?
Je pense qu'elle a lieu, mais que ça nécessite un changement culturel qui est important. On s'est malgré nous tous habitués à des grilles de prix qui sont pas réalistes et qui correspondent pas au coût réel des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises font un premier pas. Elles pensent à leur impact carbone. Elles pensent aussi à valoriser leurs salariés. Je crois que c'est un message important quand on dit à son salarié qu'on veut les valoriser, qu'on veut les respecter et qu'on les équipe avec des produits qui sont fabriqués à 5 km de chez eux, à 20 km de chez eux ou en France. Ça a pas du tout le même impact en termes de mobilisation des équipes.
Oui, c'est ce que vous disent vos clients, que ça fait aussi du team building, comme on dit.
C'est ça, ça rend fier. Ouais. Les gens sont heureux de porter du Made in Jura, du Made in France. On en croise régulièrement dans notre ville qui sortent de l'usine, qui sortent du travail et qui portent toujours leurs habits, qui sont marqués Atelier Textile Jurassien, qui portent le nom de leur entreprise. C'est effectivement un motif de fierté et d'appartenance à leur entreprise.
Dans l'appel à l'aide que vous avez lancé cet été sur les réseaux sociaux, vous dites que l'entreprise va fermer, sauf si vous obtenez ces fameuses 10 000 commandes. À quelle échéance devrez-vous mettre la clé sous la porte si rien ne bouge ?
Alors, nous, on s'était fixé comme échéance 10 000 commandes à la fin septembre. Aujourd'hui, on a à peu près atteint quasiment 50% de ce montant en termes de commandes. Donc, on espère que les 15 jours qui viennent vont nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Dans tous les cas, on a eu des commandes et on les honorera. On est fiers de pouvoir rester engagés auprès de nos clients, auprès de ceux qui nous font confiance. Et puis, on continue de croire vraiment à notre activité. Moi, on n'a pas besoin d'énormément de clients. 10 000 produits, c'est une entreprise qui s'engage tous les mois à nos côtés pour commander ces produits. Donc c'est tout à fait atteignable et tout à fait faisable. Et je sais que beaucoup d'entre elles sont intéressées. J'espère que celles qui vous écoutent notamment n'hésiteront pas à nous contacter.
Merci beaucoup Mathieu Grosset. L'appel a été entendu, je l'espère. L'atelier textile jurassien, c'est à Lons-le-Saunier. Bon courage et bonne journée.
Bonne journée, merci.
France Inter. Carnet de campagne.
Voici une association qui s'est fixé une mission singulière, cultiver l'esprit d'aventure, car l'aventure a des bienfaits considérables. Bonjour Virgile Charlot.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue dans les carnets, vous êtes le président bénévole de la Fabrique de l'Aventure, qui existe depuis 10 ans à Lons-le-Saunier. Vous êtes un mordu de vélo, Virgile, et vous avez transformé cette passion en une aventure citoyenne. Votre association propose différents dispositifs, à commencer par le projet 1000 bornes. Quel est le principe ?
Eh bien voilà, le projet 1000 bornes, c'est un projet qui permet à des particuliers adhérents de l'association, à des particuliers qui ne s'en sentent pas capables, de parcourir 1000 kilomètres à vélo durant 15 jours et en autonomie, incluant l'ascension d'un grand col du Tour de France. Donc en fait, c'est un énorme challenge qui est réservé à des gens qui, d'entrée de jeu, disent « bah non, c'est pas pour moi ».
Et nous avons reçu justement un message d'auditeur qui a participé à ce défi 1000 bornes et il nous écrit, je le cite, que « cette aventure a des effets cathartiques formidables ». Vous confirmez, Virgile ?
Ben oui, absolument, parce que le voyage à vélo a de véritables vertus transformatrices par l'autonomie, la déconnexion, les rencontres qu'on peut faire. Enfin, on se découvre et tout en découvrant le monde qui nous entoure. Et donc, évidemment, c'est une manière aussi de soigner soit un manque de confiance en soi, une dépression. C'est aussi, ça peut aider pour traverser une maladie ou vivre un handicap, etc.
Ce sont des voyages en groupe ?
Alors là, il s'agit d'un petit groupe de 5-6 participants qui sont accompagnés par 3 à 4 encadrants. Donc ça fait un groupe d'une dizaine de personnes qui va s'aventurer une quinzaine de jours chaque année depuis 4 ans sur les routes de France.
Avec un col du Tour de France donc.
Tout à fait. Alors,
franchement.
Oui. Alors, ça, c'est, en fait, le parti pris de ceux qui ont développé et créé ce projet dans l'association, c'était de dire, il faut que ce soit difficile. Si c'est pas difficile,
ce sera pas
motivant. Mmh. Voilà, ce sera pas motivant. Et il y a un peu un challenge dans le challenge, à savoir l'ascension d'un col mythique du Tour de France. On a eu le Ventoux, on a eu le Galibier, on a eu différents cols que ces gens qui ne sont pas des cyclistes connaissent forcément de nom pour les avoir entendu. Des cols sont connus parce qu'on en entend parler par le Tour de France. Donc voilà, ça motive. Et quand on a réussi à faire ce qu'un sportif de haut niveau fait à la télévision, on a l'impression quelque part d'avoir réalisé quelque chose de grand et pas seulement l'impression, c'est une réalité.
Mmh. Autre dispositif porté par votre association, la Fabrique de l'Aventure, le programme Rayonne. En quoi consiste-t-il ?
Eh bien, c'est un programme autour de l'itinérance vélo qui propose des séjours donc d'itinérance, un peu comme 1000 bornes si vous voulez, mais ça s'adresse plus à des particuliers mais à des structures de l'action médico-sociale. Donc c'est des publics qui peuvent relever du ministère de la Justice, d'une association d'accompagnement pour différentes raisons, de Paul Lazeu, ça peut être un centre hospitalier, etc. Et ça consiste donc à évoluer à vélo sur un parcours long et en autonomie. Bien sûr, on a des sacoches, etc. Et puis on est en immersion dans la nature et puis ces voyages sont ponctués de rencontres inspirantes. Donc c'est un outil qui est puissant pour révéler les capacités de chacun. Et c'est aussi un dispositif qui ne requiert aucun entraînement préalable, donc il est accessible à chacun. Et d'ailleurs, j'invite les différentes structures de l'action médico-sociale de France qui seraient intéressées à nous contacter pour qu'on leur en dise plus sur comment ça fonctionne. Mais.
Comment est financée votre association ?
Alors notre association est financée essentiellement, alors là on parle de l'action sociale mais il y a tout un volet autour de l'action culturelle, mais globalement l'association est financée essentiellement par le mécénat. Donc on a un gros travail de recherche de mécénat, on a des fondations qui nous soutiennent, un certain nombre de fondations, des particuliers aussi, et puis évidemment il y a aussi des financements publics, régions, État, collectivités locales. Donc on a des financements qui viennent un peu de partout, on a une centaine de partenaires qui nous permettent justement de financer toutes ces actions.
Avez-vous besoin de plus de bénévoles ?
Ben évidemment, toujours d'adhérents, de bénévoles. Évidemment, on peut avoir besoin de bénévoles pour accompagner les séjours mille bandes dont on parlait. On peut avoir besoin de bénévoles sur notre festival qui a lieu chaque année depuis 10 ans. Là, on mobilise une centaine de bénévoles chaque année. On peut avoir de bénévoles à plein d'endroits différents dans nos actions associatives. Et bien sûr, j'invite les auditeurs à de proximité ou non, à se mobiliser et à venir partager ce projet avec nous.
Oui, vous parliez tout à l'heure d'actions culturelles. Vous organisez en effet fait un festival chaque année à Lons-le-Saunier, les Rendez-vous de l'Aventure, prochaine édition prévue en mars 2026. Quel est le principe de ce festival ?
Eh bien, c'est un événement culturel grand public au service du lien social et de la promotion de l'esprit d'aventure. Donc, on a des ciné-rencontres, des conférences, des expositions, du spectacle vivant, des ateliers, des dédicaces. Il y a beaucoup de choses, des sorties nature. C'est un événement qui est très important aussi pour faire connaître tout le travail qu'on fait à l'année et qui est moins visible, à savoir tout ce dont on a parlé avant autour de l'action sociale.
L'aventure change la vie, vous en êtes convaincu ?
Oui, l'aventure change la vie. L'aventure nous permet de défendre une vision du monde qui met en mouvement, qui décloisonne. Enfin, pour nous, c'est un outil au service du lien, de la résilience, du mieux vivre ensemble. C'est un outil qui rassemble, c'est un outil de dialogue, un outil de confiance et de partage. Donc pour nous, évidemment, l'aventure change la vie dans le sens où elle nous rend acteurs de notre vie. Elle joue un rôle déterminant dans notre capacité à décider pour nous-mêmes. Enfin, on parle d'autodétermination. Elle est vraiment un outil au service de l'autodétermination.
Et c'est un engagement bénévole, je le rappelle pour vous, Virgile. Est-ce que ça vous laisse quand même le temps de vivre des aventures pour vous ?
Oui, bien sûr. Enfin, moi, j'ai un rapport à l'aventure qui est très particulier parce que, évidemment, vous l'avez compris, on est loin de la vision archétypale de l'aventure performative, celle qu'on peut voir parfois à la télé, les exploits, etc. Enfin, là, l'aventure du quotidien, déjà, faire vivre un projet associatif, le développer, tout ça, moi, je le vis vraiment comme une aventure. Et puis, par ailleurs, en famille, je peux aussi partir 15 jours à vélo avec les enfants. L'aventure est partout dans ma vie. C'est mon quotidien. Moi, je respire par ça.
Oui, c'est pas Koh-Lanta, quoi.
Non, c'est pas Koh-Lanta, on n'est pas dans cette version-là de l'aventure. On est dans une aventure accessible à chacun et on est dans une aventure qui donne du pouvoir. Voilà, on est dans une aventure qui contribue à façonner un monde plus attentif, qui nous rend curieux, qui nous rend sensibles. Et puis, on n'a pas parlé, bien sûr, de la nature, de l'environnement, mais dans ces aventures-là, ces aventures qu'on défend, qu'on développe, il y a un lien à la nature qui est très fort. Il y a évidemment toute une attention portée à l'écologie, et c'est très important.
La fabrique de l'aventure, c'est à Lons-le-Saunier, dans le Jura. Merci beaucoup, Virgile Charlot.
Merci beaucoup, Dorothée.
Et bonne journée, à bientôt.
Bonne journée, au revoir.
Je rappelle que la Haute-Loire sera bientôt au programme des carnets de campagne. Vous pouvez nous écrire sur le site de France Inter pour signaler des initiatives remarquables ou des gens géniaux au Puy-en-Velay, à Brioude, à Issingeaux ou partout ailleurs en Haute-Loire.